Bonsoir Frédéric Boyer.
Bonsoir.
Merci à tous d'être venus. Nous venons de commencer avec la diffusion de cette vidéo qui introduit très très bien le livre dont nous allons parler ce soir. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur qui vous êtes et ce que vous avez fait, Frédéric Boyer. Donc vous êtes romancier, traducteur, éditeur. Éditeur, donc vous dirigez la maison POL depuis 2018. Romancier, vous avez écrit de nombreux livres chez cette même maison d'édition POL. Et traducteur, vous aviez en 2001 dirigé une colossale traduction de la Bible qui s'appelle Nouvelle Traduction chez Bayard. Également, les Confessions de Saint-Augustin sous le titre Les Aveux. Plus récemment, c'est en 2015, je crois, vous avez traduit le Kama Sutra. Donc vous avez une passion pour les textes anciens de toutes sortes. Et là, vous venez nous présenter ce soir deux livres. Donc on va surtout parler de Jésus, Histoire d'une parole, donc qui vient de paraître chez Bayard, dont on a vu la diffusion d'un extrait. Et nous allons ensuite parler aussi d'un autre ouvrage que vous venez présenter ce soir, qui s'appelle Sous l'éclat des flèches, qui est un recueil de chroniques aux éditions Bayard. Alors, on va d'abord commencer avec Jésus. Il y avait déjà eu, il y a 4 ans, je crois, la parution de la Bible, les récits fondateurs chez Bayard. C'était quelque chose de très inédit, de très beau, puisque avec Jésus, vous avez repris, avec la collaboration avec Serge Bloch, le même principe, qui est de présenter le texte sacré donc, de la Bible à travers des textes courts, très poétique, une réécriture accompagnée donc des dessins de Serge Bloch. Et là donc vous venez donc nous présenter ce soir Jésus. Alors on a vu la diffusion. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une traduction. Vous avez réécrit, me semble-t-il. L'évangile d'une manière beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle aussi. Avec Serge Bloch, depuis l'apparition de la Bible, je voudrais savoir, ce sera ma première question, quelle était votre idée, quel était votre projet en associant les textes, vos textes et les dessins de Serge Bloch, qui sont des dessins parfois qui sont abstraits, où il utilise beaucoup de collages, parfois des dessins de l'enfance, parfois un peu durs aussi. Ce mélange donne une lecture complètement inédite. Qu'est-ce que, à l'époque où vous avez fait la Bible ensemble, quelle a été votre idée ?
Non, ben, c'était un projet un peu particulier, d'abord parce que c'était une commande. On n'a pas décidé tout de suite, tous les deux, un soir, en buvant trop, de se lancer dans cette aventure. C'est une commande, et c'est une commande de film. Donc, avant le livre. Et c'était une commande où on nous demandait de réaliser une série de petits films qui raconteraient les grands récits bibliques en 4 minutes maximum à chaque fois par épisode, puisque l'idée est de les diffuser sur Internet, sur le web, sur Internet. Donc à l'époque, c'était même avant 2015 à l'époque, puisque on pensait que sur Internet, les films ne devaient pas dépasser plus de 4 minutes. Et on découvre maintenant que c'est trop long. Bon, bref, alors qu'on a tout raté, mais bon, c'est pas grave. Non, donc c'était. Alors, au début, je me suis dit, c'est pas possible, parce que raconter en 4 minutes, par exemple, l'épisode de la création du monde ou du déluge, ou bon, c'était. Ou même pire, tout l'épisode de la conquête de la terre, Josué, les livres des rois. Ça me paraissait impossible, mais finalement, comme toute contrainte, toute contrainte a du bon, et toute contrainte est un élément un peu excitant pour créer quelque chose. Donc, on a travaillé tous les deux, et l'idée est toute simple. C'est aussi c'est la même idée pour ce nouveau volume. C'est-à-dire, ça n'est pas on ne re-raconte pas vraiment les récits. On ne prend pas évidemment le texte parce qu'on aurait pu aussi faire une sélection finalement du texte biblique lui-même et l'adapter. En fait, d'abord tout ça existe déjà beaucoup. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait raconter nous la façon dont aujourd'hui on lisait ensemble ces récits-là. Voilà. Donc, effectivement, c'est une réinterprétation personnelle, comme vous l'avez dit, contemporaine, de ces récits, en essayant de faire comprendre pourquoi il y a dans ces récits quelque chose toujours important qui peut nous toucher, qu'on soit confessant ou pas, d'ailleurs, puisque le projet lui-même n'est pas confessionnel à l'origine. Hein, c'était même si il y a des accents. Parce que, donc on s'est mis au travail. Et l'idée était que moi, effectivement, c'est pas évident d'écrire un texte pour des films aussi courts. Donc je me suis mis au travail et Serge commençait à dessiner. Et en même temps, le texte et les dessins s'élaboraient ensemble, en fait. Donc, pour moi, ça a été une aventure. Moi, j'aime bien les projets comme ça, un peu bizarres et un peu exceptionnels, non pas par leur résultat, ce n'est pas moi d'en juger, mais par la fabrique même du projet. Alors on a fait ce premier volume qui est une traversée en 35 épisodes des récits de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Et puis évidemment, une fois qu'on l'a fait, on nous a demandé de poursuivre avec le Nouveau Testament, en sachant que c'est des questions nouvelles. Voilà, parce que, alors bon, ça, enfin, on va faire un peu d'exégèse historique. Ce qu'on appelle le Nouveau Testament pose d'autres questions narratives. C'est un autre type de texte. D'abord, c'est une autre langue, hein, c'est le grec. Et puis, c'est une autre tradition aussi, puisque c'est la tradition chrétienne qui a été celle qui a façonné ces textes et leur transmission. Et puis, il y a effectivement ce personnage, Jésus, qui est en quelque sorte le héros, en tout cas, de tout cet ensemble. Et il y avait deux écueils, alors je pense qu'on a réussi à peu près à les éviter, c'était faire une vie de Jésus en tant que tel, il y en a beaucoup, il y en a plein, et en même temps, il fallait aussi faire entendre le lien, la continuité de ces récits avec les récits précédents. Voilà. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Et après, effectivement, je me suis posé des questions directes à moi-même, c'est-à-dire comment raconter cette histoire-là, comment raconter ces textes et toute cette tradition sans que ça soit effectivement une simple vie de Jésus. Voilà, donc là, on a vu le premier épisode, donc c'est l'épisode qu'on retrouve dans le livre. Pour moi, c'était pas évident d'ouvrir, justement, de commencer. C'était vraiment la première. Et donc, cet épisode raconte, s'appelle l'attente, donc effectivement, ça a été moi mon premier moteur pour travailler. Finalement, c'est des questions assez simples. C'est qu'est-ce qui se passait il y a un peu plus de 2000 ans et même avant, 300 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passait dans ce petit monde du Proche-Orient ancien et encore plus resserré dans ces terres Judée, Samarie, Galilée. C'était des terres sous occupation romaine. Le judaïsme ancien de l'époque était d'une certaine façon un peu en implosion, déchiré par des tas de courants contradictoires, des courants qu'on va dire apocalyptiques, c'est-à-dire qui attendaient comme une fin de l'histoire. Et l'idée forte de tout ça, c'était qu'effectivement, il y avait une attente. L'attente de quelqu'un qui reviendrait et on allait puiser cette attente, le souvenir de cette attente dans les textes précédents, c'est-à-dire dans les textes bibliques, notamment les textes prophétiques, qui annonçaient le retour de quelqu'un, le retour d'un... Alors, on ne savait pas si c'était... C'est ce que dit le petit texte, hein, ce petit film. On ne savait pas si c'était un dieu, un prêtre, un guerrier, un roi, celui qui allait restaurer le royaume de David, ou un prophète comme Élie ou Ézéchiel. Voilà. Et donc, toutes ces questions, ça n'a l'air de rien, ce petit film et ce texte, mais par exemple, tout ce que vous avez entendu, c'est des idées, des textes, des images qui viennent, c'est pas moi qui les ai inventées tout seul, qui viennent, par exemple, de toute la tradition talmudique, puisque la tradition talmudique, d'une certaine façon, qui est un peu plus tardive que la tradition évangélique, d'ailleurs, mais c'est un peu le même mouvement, et cette tradition a recueilli, effectivement, les images, les expressions, les mots de cette attente. Par exemple, quand on dit le Messie, on le voit, est-ce que c'est l'air de nos narines, est-ce que c'est une plante qui pousse, est-ce que c'est, je ne sais plus, ça se trouve dans le Talmud, effectivement. Ou cette idée, est-ce que ça serait un roi, un guerrier, c'est aussi des débats que l'on rencontre dans les discussions midrashiques, etc., et que l'on rencontre aussi dans l'Évangile, d'ailleurs. Bon, voilà. dans les textes évangéliques. Donc, moi, j'ai puisé à toutes ces traditions et dans le texte évangélique pour essayer, effectivement... Alors, ça tient plus, effectivement, du poème, en quelque sorte, puisque moi, je ne voulais pas raconter... voilà, et un jour, à Bethléem, Jésus est né, etc., puisque je pense que c'est une erreur grossière et fondamentale et qu'il faut absolument faire entendre ces récits comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des textes de littérature, d'abord et avant tout, parce qu'il y a une littérature biblique et c'est une littérature, et que ces textes jouent, comme tout grand texte de littérature, et notamment comme tout grand texte de l'Antiquité, sur des figures, sur des thèmes, et c'est ce que je voulais faire entendre. Et deuxième chose, c'est... En tout cas, c'était une volonté, je ne sais pas si on y est arrivé vraiment, c'est faire entendre que ces questions, c'était des questions qui peuvent se formuler aujourd'hui avec des intensités contemporaines. Voilà. C'est pour ça qu'on ouvre, par exemple, ce petit texte, mais voilà, face au chagrin ou face à la déception, ou face, ça peut être la déception historique, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ou une situation personnelle. Voilà, qu'est-ce qu'on a face au chagrin ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Et qu'est-ce que c'est que l'attente dans le chagrin ou dans le désespoir ou dans la déception ? Voilà. Et c'est ça qui va ouvrir le texte. Voilà. Et chacun des épisodes, d'ailleurs, commence sur une question existentielle, en fait. Alors là, là, c'est justement l'attente devant le désespoir qui peut nous habiter pour telle ou telle raison. Une autre fois, ça va être la quête du bonheur ou la question de la joie. Qu'est-ce que c'est la joie ? Comment formuler la joie ? Ça peut être aussi... Alors, ça, c'est la fin, ça, un peu la fin de l'histoire, la passion du Christ. Comment raconter la passion du Christ ? Ça a été la chose la plus difficile pour moi. Voilà. Et en fait, finalement, c'était aussi ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe devant la perte d'un être aimé ou apprécié ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec la disparition de l'autre ? Voilà. Et pourquoi cette disparition ? Et je pense que ces questions, c'est des questions que tout le monde peut entendre, que tout le monde peut vivre et a vécu. Et qu'à partir de là, on essaye de montrer comment le texte évangélique, finalement, le texte des Écritures, les images, les figures, les mots que ces textes-là ont apporté à ces questions. Voilà.
Mais du coup, ça vous oblige à vous approprier les textes. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes plongé dans les évangiles ? Parce qu'il y a une synthèse, effectivement, de la pensée. Il y a même un remaniement de la pensée qui devient un poème. On n'est pas en train de lire les évangiles, comme vous dites. Ce n'est pas une vie de Jésus, c'est vraiment l'histoire d'une parole. Moi, je me pose une question. Comment vous avez effectué ce travail, en fait ? Est-ce que vous avez relu les évangiles ? Est-ce que ce sont des textes qui sont aussi très personnels ? Comment vous avez abordé ce travail ?
Moi, je m'en suis sorti qu'en me disant « écris quelque chose » qui sera effectivement personnel, en tout cas, dont voilà.
C'est ce qui vous touche personnellement.
Voilà, j'en porte la entière paternité, même si c'est raté, tant pis. Parce que ça changeait, puis c'était le défi le plus intéressant, puisque effectivement d'autres avant l'ont fait, même très bien, beaucoup mieux que je pourrais le faire finalement, raconter une vie de Jésus historique. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très grand livre d'un exégète et théologien allemand qui s'appelait Gerd Tyson, qui est mort. Un livre qui s'appelle « L'ombre du Galiléen ». Voilà, c'est un livre assez exceptionnel sur la vie de Jésus, restitué dans un contexte historique. Voilà, bon, ça, c'est vraiment passionnant. Bon, après, il y a eu plein de vies de Jésus. Mais là, je ne voulais pas faire ça. Voilà. Je voulais montrer comment, finalement, même, oui, pour moi, c'était quelque chose qui pouvait me toucher, moi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est montrer que ces textes ont une résonance, de toute façon, que vous soyez croyant, non-croyant, peu importe, une résonance dans la problématique de l'existence de chacun et aussi la problématique de l'existence des communautés qu'on peut former entre nous, puisque la question de la communauté, c'est une question qui traverse tous ces textes, puisque c'est aussi la naissance d'une communauté, ces textes-là. Hein. Ça raconte la naissance d'une communauté dans sa difficulté. Hein. C'est pas simplement... voilà. Après, il fallait travailler avec un illustrateur,
oui.
Qui est plus qu'un illustrateur, en l'occurrence ici, en tout cas. Et moi, ce que j'ai dû faire, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, j'ai dû lui raconter un peu ce que je pensais.
Alors, comment ça se passait, justement, cette collaboration ?
D'abord, des textes. Comme vous l'avez très bien dit, moi, je suis rentré dans un univers pictural, enfin aussi, puisque un univers esthétique, qui est l'univers de Serge, qui, comme vous le dites, est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le trait. Il dessine pas, il travaille sous forme de collage. Et par exemple, il a eu cette idée, qui est une idée, alors peut-être parce qu'on en a parlé ensemble, peut-être parce que je lui ai dit en gros ce que je viens de vous dire, il a eu cette idée de se servir d'images qui venaient d'univers très différents. Vous verrez que dans certains épisodes, vous avez les gratte-ciel d'une ville contemporaine, oui, qui peut être New York ou je sais pas quoi, ou Shanghai, peu importe. Vous avez des voitures, vous avez, mais aussi tout d'un coup, vous avez, comme vous avez vu là, des personnages qui évoquent vaguement des personnages historiques. Et tout ça, finalement, il est arrivé à une espèce d'harmonie étrange, de collage, de choc un peu entre différents univers esthétiques. Et ça donne, je trouve, moi, quelque chose de très contemporain. Et il fallait de toute façon avoir un traitement qui tire vers l'abstrait, puisqu'on ne voulait pas représenter les choses. Et la grande question qu'on a eue, c'est: faut-il représenter Jésus ? Alors, en fait, au début, Serge ne voulait pas. Il voulait, et vous verrez dans le livre qu'au début, c'est un petit personnage qui n'a aucune qualification, qu'on ne reconnaît pas. On le sait parce que, bon, quand on lit le texte, on voit que ça doit être lui. Et progressivement, dans le livre, effectivement, une certaine représentation arrive. Par exemple, ce portrait-là qui est en couverture.
Oui, qui est assez frappant, d'ailleurs.
Voilà, arrive vers la fin du livre, effectivement. Et donc, il y a ce travail aussi presque esthétique qui raconte quelque chose. D'ailleurs, ça raconte quelque chose de très vrai d'un point de vue exégétique et théologique aussi. C'est que cette figure-là de Jésus, elle apparaît progressivement. Il n'est pas reconnu tout de suite. Hein, puisque le premier épisode, c'est l'attente, et le deuxième épisode, c'est l'inattendu. Je ne me suis pas trop cassé. Et c'est l'inattendu parce que la grande question, c'est ce que disait Pascal, Jésus est venu dans un éclat qu'on n'attendait pas. Voilà. C'est-à-dire que la grande question de ce personnage, même d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qu'on attendait. Voilà. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on attendait. Voilà. Et toute la tension dramatique des évangiles, de toute façon, ça va être ça. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très proche de chacun. Chacun peut vivre ça. On espère quelque chose, et ce qui vient n'est pas forcément ce que notre espérance a projeté. Et il faut faire peut-être un travail personnel,
oui, parce que...
pour essayer de s'interroger sur, mais finalement, est-ce que j'attendais, est-ce que l'objet que j'attendais, en tout cas l'objet que je me figurais dans mon espérance, est-ce que c'est vraiment ce que j'attendais, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait attendre, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'attendais là vraiment, ou est-ce que finalement l'espérance n'est pas là pour construire autre chose que l'objet fantasmé de mon attente. Voilà. Enfin, pardon, c'est un peu. Mais après, alors, là, c'est le sujet de ce livre aussi.
Mais justement, c'est parce qu'effectivement, on se replonge à cette époque, au premier siècle, où vous le dites, il y avait aussi d'autres prêcheurs itinérants. On voit Saint Jean le Baptiste qui était là avant Jésus. C'est une époque effectivement d'effervescence messianique. Donc, il y en a eu plein d'autres des prêcheurs comme ça. Et ben, alors pourquoi Jésus a-t-il percé? Et pourquoi 2000 ans après, son discours et ses paroles sont toujours actuelles?
Je vais essayer de répondre le plus simplement possible et sans faire...
Parce question.
Oui, c'est une vaste question.
Et je sais.
On peut rester, je sais pas.
On en croit pas.
Non, mais d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, ce Yeshua vient donc du milieu du judaïsme ancien. Alors, on raconte dans les évangiles, dans toute la tradition, qu'il était galiléen, qu'il est venu en Judée. Alors, bon, c'est assez, enfin, donc il y avait une opposition à l'époque entre ces deux régions, même avec une troisième région qui est Samarie, qui sont quand même les trois grandes régions des royaumes de Juda et d'Israël du temps des derniers rois hébreux, avec le royaume d'Israël et le royaume de Juda et la région de Samarie qui était associée à Israël. Mais là, on est en gros de moins 100 à 0 de notre ère, et on est sous domination romaine. C'est le monde romain qui a conquis tout ce monde du Proche-Orient, comme tout le monde entier. Et le monde à l'époque, c'est les frontières de l'Empire romain. On est sous domination romaine, donc on est sous contrôle de l'armée. C'est un pays occupé. Hein. Et effectivement, depuis 500 ans, les Juifs ont eu, grâce à Cyrus, empereur perse, ont eu le droit de retourner à Jérusalem après leur exil à Babylone il y a plus de 500 ans avant. Et on est donc, il y a à la fois un pouvoir religieux et politique juif. qui se concentre à Jérusalem. Et ce pouvoir lui-même, d'ailleurs, est un pouvoir contesté par d'autres courants juifs ou judéens, comme on dit plus exactement, puisque le mot juif est plus tardif. Hein. Mais donc, et donc, c'est des courants en opposition dans un pays sous occupation romaine, donc sous occupation étrangère, avec une loi romaine aussi, c'est très important. Et dans ce monde-là, le judaïsme va se transformer. Le judaïsme est en train de se transformer. Et ce qu'on voit quand on lit les évangiles, enfin, moi, ça m'a frappé en relisant, c'est qu'effectivement, on a, toutes ces dernières années, on a eu l'idée d'un prêcheur itinérant, parce qu'effectivement, à l'époque, il faut imaginer, il y avait des tas de prêcheurs itinérants qui passaient dans les campagnes et dans les premières synagogues. Mais quand on relit les évangiles, franchement, alors ça, c'est très personnel, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais c'est que finalement, on découvre quand même que ce Jésus, ce Yeshua, était peut-être pas si marginal que ça et pas si itinérant que ça. Vous verrez que si vous relisez attentivement les évangiles sous cet angle-là, vous voyez que il ne fait que entrer dans les synagogues et aller au temple. Et il ne fait que discuter. Voilà. C'est quelqu'un qui est attendu. Donc, à mon sens, ça devait être un maître. Comme il est appelé dans les évangiles, il est appelé rabbi. Hein, c'est-à-dire, à l'époque, ça voulait dire maître. C'est celui qu'on allait voir. Et c'est celui avec lequel on discutait de la loi, de la Torah. C'était très important, puisqu'il fallait adapter la Torah à la vie de tous les jours, à la vie de la communauté, à ce qui se passait. Et Tout le débat évangélique va se jouer là. Et la parole de ce Yeshua va être une parole de contestation, d'une certaine façon, de l'interprétation, on va dire, peut-être classique de la Torah, qui est, à l'époque, l'interprétation pharisienne. Les pharisiens, c'est un groupe important qui détiennent la direction, qui détiennent le temple de Jérusalem. C'est en même temps un courant du judaïsme de l'époque relativement ouvert. Hein, c'est pas, mais voilà. Et il y a même certains historiens exégètes qui pensent que Jésus était issu d'une famille pharisienne, d'ailleurs, ce qui serait confirmé puisqu'à sa mort, celui qui va reprendre la mémoire de ce Yeshua, c'est son frère Jacques. Et son frère Jacques est au temple de Jérusalem et crée à Jérusalem la première communauté qui se revendique, la première communauté juive, hein, parce qu'on est toujours dans le judaïsme à ce moment-là, hein, dans la première communauté judéenne qui se revendique d'une filiation avec ce Jésus, en le reconnaissant comme Messie. Des gens qui se faisaient reconnaître comme Messie à l'époque, il y en avait plusieurs, c'était pas du tout le seul. Alors, pourquoi on est arrivé à lui? Pourquoi il est devenu celui qu'on connaît maintenant et dans toute la tradition? Si vous voulez, tout ça se passe a posteriori. Voilà, tout ça va se passer après. Donc, ce livre ne raconte pas vraiment ça. Je dis pas qu'on va faire un troisième livre, ce serait trop compliqué. Mais ça s'est passé. C'est un système de réception, de transmission. C'est une tradition qui va s'élaborer. Elle naît à Jérusalem après la mort de ce Yeshua, avec des témoignages disant que finalement ce Yeshua était probablement le Messie attendu. Donc on revient à cette question de l'attente qui était très, très, très importante. À l'époque, il y a des révoltes très, très sévères, des révoltes judéennes contre l'occupant romain, contre aussi d'autres factions juives. Il y a eu tellement de révoltes, d'ailleurs, qu'en 70, les Romains décident d'écraser tout ça, de détruire le temple. Voilà. Et ça va être la naissance, effectivement, d'un grand mouvement de diaspora du monde judéen dans tout l'Orient ancien. Sachant, et j'en finis là-dessus parce que c'est un peu trop, sachant que la diaspora judéenne était déjà très importante dans tout l'Orient ancien dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait, par exemple, une diaspora très importante, une diaspora juive très importante à Alexandrie, en Égypte. Il y avait une diaspora juive très importante dans le monde perse. Et que finalement, par la suite, et donc ce qui explique, c'est pour ça que je dis ça, ce qui explique aussi que par la suite, ces disciples de Jésus qui vont se réclamer chrétiens, Christianos en grec, qui était un sobriquet donné à ces factions-là, voilà, donc ils vont prendre ce sobriquet et s'en revendiquer, et ils vont prêcher non plus à Jérusalem, parce qu'on ne peut plus, on ne pouvait plus, ils vont aller prêcher dans tout le monde de la Méditerranée. Et ils vont suivre ce mouvement de la diaspora juive dans toute la Méditerranée. Et celui qui fera ça, c'est Paul. Alors, je ne pense pas, je ne dirai jamais que Paul est le fondateur du christianisme, mais c'est celui qui a essaimé, qui a en quelque sorte universalisé un message qui était un message profondément judéen, profondément juif, qui n'était pas fait pour être universalisé comme ça. Mais c'est les conditions, d'une certaine façon, historiques, de l'implosion de ce monde qui ont fait que cette parole allait tout d'un coup avoir un retentissement dans tout le monde méditerranéen, puisqu'ils iront jusqu'à Rome, etc. Voilà.
Alors, au-delà...
C'est comme ça que ce Jésus devient le Jésus. Eh ben, Jésus, finalement, c'est comme ça que ce qu'on va appeler le christianisme, finalement, pas avant le 4e, 5e siècle, donc quand même très tard après, va se constituer. Et l'autre grande chose, il ne faut pas me lancer là-dessus. Parce
que... Ben si, justement.
Non, l'autre grande chose, c'est que, et c'est important, parce que c'est en lien aussi avec la Torah écrite, hein, c'est-à-dire qu'on a décidé, et c'est une grande décision, on a décidé de fixer par écrit ces paroles et ces témoignages et d'en faire des textes qui devaient circuler, qui devaient être appris, qui devaient être chantés, qui devaient produire des liturgies. Sur le mode justement de la Torah hébraïque, en quelque sorte, à tel point qu'il y a eu tout un mouvement de canonisation des textes, puisqu'on ne pouvait pas non plus se réclamer de plein de textes, et que ça a été un mouvement parallèle. Hein, toute la Torah juive s'est canonisée à partir de cette époque, en réaction à ces textes chrétiens qui, progressivement, le canon chrétien fixe, définitif, date de la fin du 5e siècle. Et la canonicité des écrits juifs, en tout cas aussi, a été parallèle à ce mouvement-là. Donc l'écriture va être un vecteur considérable avec l'invention. Enfin, l'invention était déjà inventée, mais la popularité on passe du... Excusez-moi, là, tout d'un coup, on passe du volume, on passe des rouleaux au codex. Voilà. L'invention du codex a été un puissant vecteur de création de ce qu'on va appeler le christianisme. C'est très important.
Alors, merci pour toutes ces explications qui sont absolument passionnantes. Effectivement, donc là, on a vraiment le contexte dans lequel a circulé la parole de Jésus. Mais ce qu'il y a au fond de cette parole, c'est vrai que quand on relit les évangiles, quand on lit simplement votre livre où justement la réécriture permet d'aller au fond de la parole, parce qu'il est quand même question de sa parole. C'est d'ailleurs le personnage principal du livre, hein, c'est vraiment son message, quoi. Et on se rend compte effectivement qu'il dit des choses qu'à l'époque personne d'autre ne disait.
Non, ça je pense pas, non, justement.
Vous pensez...
C'est décevant, mais c'est...
Ah, non, mais alors...
Je pense qu'au contraire, d'abord, on sait, il y avait un grand rabbi à l'époque, pas tout à fait à l'époque de Jésus, mais presque, enfin, à quelques années près, qui était Hillel. Et si vous lisez dans le Talmud, ou après dans les Midrash, ce que disait Hillel, c'est exactement pareil. Par exemple, la règle d'or, c'est-à-dire il faut aimer son prochain comme soi-même, etc. C'est pas du tout une invention de ce Jésus. C'était déjà toute une parole qui circulait. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est il y a un travail interprétatif constant. Voilà. On doit toujours interpréter ce qu'on a reçu des écritures, ce qu'on a lu, et on les interprète. Et ce qui est très beau dans les évangiles, il est toujours question de ça. On lui amène une femme adultère, on lui dit bah, c'est simple, la Torah de Moïse dit qu'il faut la lapider, ce qui est vrai. Voilà, donc alors bon, bah, on va interpréter ça. Donc il y a une discussion très vivante, très, je dirais, pratique, même physique. Voilà, Jésus leur dit bah, oui, vous avez raison, très bien, bon, bah, on y va. Et donc, mais qui va lui jeter la première pierre? Donc il dit bah, il faut que ce soit celui qui n'ait jamais fauté. Voilà. Donc, mais ça, c'est typique de l'interprétation rabbinique. Voilà, c'est typique. Si vous lisez le Talmud, je ne vous conseille pas de tout lire, parce que sauf si vous êtes passionné, mais il y a des histoires comme cela, il y en a partout, tout le temps. Et le Talmud est tissé d'histoires comme ça. C'est-à-dire, on conteste la parole reçue. On la conteste, mais de façon, je veux dire, pas pour le plaisir de la contester, mais c'est à la fois pour se l'approprier et pour la comprendre. Voilà. Moïse nous a dit ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, donc, dans telle et telle circonstance. Et c'est le propre du mouvement pharisien, de toute façon. C'est pour ça que je pense que Jésus était en tout cas très lié à ce mouvement-là. Et les évangiles, ce n'est que des discussions là-dessus. Toutes les paraboles que donne Jésus, ce n'est pas des paraboles profondément originales, c'est des paraboles qu'on peut retrouver dans tout l'enseignement juif de l'époque, soit décalé. Soit... Et finalement, Jésus se sert de tout un enseignement familier, quotidien, pour en tout cas pour les, à la fois les docteurs, ce qu'on appelait les docteurs de la loi. C'était quoi les docteurs de la loi? C'était pas des juristes, c'était les lettrés capables de lire la Torah et de l'interpréter. Et comme on était quand même dans un monde largement analphabète, hein, de l'interpréter pour ceux qui ne savaient pas lire ou qui ne connaissaient pas les textes. Voilà, bien, Jésus est un des maîtres, un de ses maîtres. Alors il est allé sûrement plus loin que d'autres. Après, tout ça est très mystérieux, hein, ce n'est que des hypothèses. Pourquoi est-il allé jusqu'à la mort, puisque finalement son historicité n'est pas mise en doute justement parce qu'on sait qu'il est mort sous Ponce Pilate et que d'autres témoignages écrits non chrétiens, notamment Flavius Joseph, Pline l'Ancien, parlent très brièvement d'ailleurs, parce que c'était un épiphénomène, c'était pas du tout un événement. Des gens crucifiés pour rébellion à l'époque, il y en avait beaucoup. Mais on sait qu'effectivement ce type-là a été crucifié, qu'il a été condamné par Ponce Pilate, qu'il a été apparemment livré par les autorités du temple. Bon, là ça devient plus compliqué, mais c'est voilà. Et alors pourquoi est-on allé jusqu'à le tuer? Probablement, effectivement, parce qu'il faisait partie de ces courants séditieux, peut-être dangereux, peut-être qu'en tout cas pour les pouvoirs en place. Et les pouvoirs en place, c'était le pouvoir romain. Qui était le seul pouvoir décisionnaire qui avait le seul pouvoir décisionnaire de mise à mort. Donc là aussi, il faut être clair, ce ne sont pas les Juifs qui ont mis à mort Jésus, c'est le pouvoir romain qui a décidé de mettre à mort Jésus, même après si on raconte... Mais en tout cas, c'est Et après, ce qui s'est passé, c'est la mémoire de sa... C'est à la fois la mémoire de ce personnage et... C'est la mémoire de sa mort, ce qui est mystérieux, c'est ça. C'est pourquoi lui, pourquoi sa mort à lui a été aussi importante et pourquoi elle a eu ce retentissement dans différentes communautés. Voilà. Bon, ça, c'est, on ne pourra jamais l'expliquer vraiment, mais on peut faire des hypothèses. Voilà. Sans aller dans des, après, dans un discours de foi, qui est un autre discours qu'on peut avoir aussi. C'est intéressant. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a tenu à faire mémoire de lui. Voilà. Alors, ça aurait pu s'éteindre aussi. On aurait pu avoir quelques petites communautés comme ça, qui étaient ses amis proches de lui ou sa famille, comme Jacques. Et puis après, s'éteindre. En fait, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, je ne vais pas le reprendre. Il y a eu un courant d'une énergie assez forte comme ça. Et peut-être que la chute de Jérusalem en 70 a projeté tous ces gens-là à l'extérieur, et que à l'extérieur, quand vous alliez en Grèce, quand vous allez, je sais pas, en Perse, en Égypte, et même aller jusqu'en Espagne et en Italie, les persécutions étaient beaucoup moindres, en tout cas à l'époque au début. Et en fait, quand on lit Paul, c'est très intéressant. Que fait Paul? Il va voir des communautés qui étaient probablement des communautés juives et judéennes de la diaspora, peut-être déjà judéo-chrétiennes. Il les a évangélisés en quelque sorte. Et donc c'est ce message qui s'est répandu, sachant que les textes les plus anciens que l'on ait du christianisme, ce sont les lettres de Paul. Voilà. La première lettre de Paul probablement date de 50 après notre ère, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Jésus, après la mort de...
Mais au-delà, effectivement...
Et les évangiles sont plus tardifs. Enfin, le premier évangile, c'est Marc, peut-être en 70, et le dernier, c'est Jean, probablement au début du deuxième siècle.
Voilà. Alors, du coup, je vais reformuler ma question. Alors, 2000 ans après, qu'est-ce qui vous touche ce qu'a pu dire Jésus, ou dans ce qu'il a pu faire, en fait? Parce qu'effectivement, on a bien compris qu'effectivement, il y a eu une mémoire... une circulation des écrits, des témoignages qui ont fait que sa parole a perduré. D'autres avaient peut-être aussi des messages un petit peu similaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même dans sa parole, dont vous faites le récit dans ce livre, qui est quand même particulièrement détonnante, marginale,
D'abord, je vais essayer de vous répondre autrement à chaque fois. Comme ça
ben, c'est très bien.
Non, mais d'abord, alors moi, ça me frappe en tant que... Ouais, presque écrivain, enfin, pour pas trop. On n'a pas d'autres exemples de textes dans l'Antiquité, en tout cas dans l'Antiquité de l'époque. On n'a pas d'autres exemples de textes comme ces évangiles. Ouais. Donc effectivement, on retrouve des histoires, on retrouve plein de d'échos et on trouve en quelque sorte un patrimoine des paraboles, des enseignements, par exemple dans tout l'enseignement juif de cette époque, et notamment qu'on retrouve compilé par exemple dans le Talmud, notamment le Talmud de Babylone. Mais effectivement, en tant qu'objet littéraire, parce que c'est important d'où ça vient, des évangiles. Pourquoi on a écrit des évangiles, en fait? Ils auraient pu écrire, ils auraient pu écrire des sortes de midrash qui se seraient passés. Ça apporte deux réflexions. D'abord, tout de suite, cette tradition juive qui va devenir judéo-chrétienne, puis qui va devenir chrétienne, c'est inscrit dans le domaine hellénistique. C'est-à-dire, on a écrit en grec. Alors à l'époque, on écrivait en grec. Le grec était la langue à la fois de la culture et des pouvoirs, qu'ils soient politiques, même finalement religieux, après, à partir d'un moment, et littéraire, parce que la grande littérature grecque inspirait tout ce monde-là. Donc on a écrit en grec, ce qui n'est pas évident du tout, c'était une décision. On a écrit en grec et on a écrit des objets littéraires que je trouve, moi, alors ça c'est très personnel, parce que quand j'en parle à l'exégète, ils me regardent avec des yeux ronds, mais je répète, on n'a pas d'autres exemples, voilà, de textes dans le domaine hellénistique qui ressemblent à des évangiles, on n'en a pas. Alors, ça embête toujours ceux qui font des classifications, là, ils vous disent, mais non, mais si, c'est comme ce qu'on appelle les bios en grec, c'est-à-dire, effectivement, il y avait toute une tradition dans la littérature grecque, des vies de gens illustres, qui seront repris après dans le monde romain, d'ailleurs, c'est-à-dire, on racontait la vie, la vôtre, je sais pas quoi, voilà, en disant, il était merveilleux, il faisait des miracles, il a tout gagné, il était formidable, bon, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ça, les évangiles non plus, parce que, comme je l'ai dit, quand on les lit vraiment, c'est plus des textes qui rapportent des discussions, qui rapportent des paroles, qui rapportent des échanges. Alors, évidemment, on raconte la vie de Jésus, mais pas exactement comme si vous avez lu des vies. Vous pouvez lire, par exemple, Pline l'Ancien écrit plein de vies. Si vous lisez les vies de grands héros romains ou grecs dans la littérature gréco-romaine, ça n'est pas construit pareil, voilà. Et ça n'est pas ça du tout. Donc, c'est pas vraiment des vies de Jésus. Les évangiles ne sont pas des vies de Jésus. Autre problème, on en a quatre. Même on sait qu'on en avait plus, après qu'il y en a eu plus, mais en tout cas, dans le canon, on en a quatre, qui sont, contrairement parfois à ce qu'on croit, assez différentes, et même parfois très différentes les unes des autres, qui racontent en gros la même chose. Mais quand on dit ça, on se trompe un peu. Ça ne raconte pas vraiment la même chose. Voilà. Alors, on va dire qu'en gros, que Marc et Matthieu racontent la même chose. Luc, c'est déjà, parce que c'est déjà un auteur très différent. Et Jean, c'est vraiment autre chose. Voilà. Donc, pourquoi on a... Donc, c'est un objet littéraire, même, pour répondre à ça, qui est un peu unique et qui est étrange. Et qu'on ait, à partir du 3e siècle, constitué cet objet littéraire à coup de discussions théologico-littéraires aussi, d'ailleurs, pour essayer de garder ces quatre textes et en faire la parole qui va être la parole de la foi de ces gens-là, c'est assez, effectivement, c'est assez mystérieux et c'est assez étonnant. Donc, et après, pour répondre vraiment à votre question, c'est la transmission, pour moi, qui a créé l'originalité profonde de ces textes. C'est-à-dire que ces textes sont devenus un lieu de tradition nouvelle. Sont devenus, alors, quand je dis un lieu de tradition nouvelle, ces textes sont devenus des lieux dans lesquels on va puiser toute une interprétation, effectivement, de la religion, de la foi, mais aussi de la vie, mais aussi du rapport avec ce qui nous précède, donc le rapport avec les Écritures qui nous précédaient. Et chaque image de ces textes, chaque histoire de ces textes vont devenir effectivement des éléments constitutifs d'une grande tradition qui va s'inventer, se réinventer de siècle en siècle. Donc pour moi, c'est un foyer en quelque sorte. C'est comme un feu, c'est un foyer qui va progressivement irradier. Et effectivement, aujourd'hui, quand on les relit, ça ne peut avoir de sens que si on est touché. Parce que ces histoires, parce que ces textes et ces paroles peuvent nous dire encore aujourd'hui. La réception est un peu différente si on est croyant ou pas, mais j'ai envie de dire, peu importe ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, ces textes traversent quelque chose de très profond en nous, et c'est ce qu'on a essayé de faire en les racontant par le texte et par l'image. On a essayé de faire entendre quelque chose, finalement, de très contemporain sur des questions qui sont des questions existentielles de toujours et qui sont relativement simples, d'ailleurs. Je pourrais en citer plein d'exemples, mais c'est...
Oui, oui. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une très habile transition entre les deux livres que nous présentons ce soir, parce que il est peut-être temps maintenant aussi de nous intéresser à votre livre, donc Sous l'éclat des flèches. D'ailleurs, en lisant les deux, effectivement, je trouvais qu'il y avait des échos. Sous l'éclat des flèches, donc ce sont des chroniques que vous avez rédigées pour le journal La Croix et pour La Croix Hebdo entre 2018 et 2020. Et en fait, c'est aussi une question de regard, je trouve. C'est-à-dire que ce sont des chroniques dans lesquelles vous posez un regard très personnel sur des choses qui peuvent vous toucher personnellement, donc, ou sur des questions de société, notamment la question de l'accueil des migrants, qui est une question qui revient. Donc c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher aussi de faire le lien entre les deux, parce que justement, sur l'accueil... et sur les questions du vivre ensemble. On trouve dans votre livre sur Jésus quelques réponses. Voilà.
Parce que c'était une grande question de l'époque. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, effectivement, ça fait écho avec ce qu'on peut vivre, nous. Pas de façon similaire, parce que ça serait idiot. Il n'y a pas de...
Bien sûr.
On ne peut pas faire d'anachronisme. Mais c'est la question elle-même. On est dans une époque, au premier siècle, dans ce petit milieu de la Palestine, dans une époque qui est très ségrégationniste, hein. C'est-à-dire que les femmes, les enfants, les esclaves, les malades, ceux qui ont le Covid ou pas à l'époque, je ne sais pas si ça existe déjà, étaient exclus de la société. Voilà. C'était les malades étaient aux portes des cités. Ils étaient vraiment mis dans des espèces de camps comme des mendiants. Et ils n'avaient d'ailleurs d'autres ressources que de mendier. Quelqu'un qui avait la lèpre, c'était foutu. Les femmes avaient un statut, effectivement, d'infériorité. Je ne vais pas faire un dessin, tout le monde le sait, à l'époque. Les enfants étaient considérés comme presque comme des objets, hein, par exemple, dans le monde romain, on voit ça très bien. C'est-à-dire que l'enfant, tant qu'il n'a pas atteint l'adolescence et tant qu'il ne devient pas quelqu'un qui peut être soit soldat, soit s'il est bourgeois et s'il est ou de famille noble, il va prendre. Mais sinon, l'enfant était effectivement une personne qui n'avait pas de droit. Voilà. Donc on est dans une société. Et alors les étrangers à cette époque, ça allait très vite. Hein, si vous venez de Samarie, dans les Évangiles, vous êtes de Samarie, vous êtes un étranger. Samarie, c'est comme si je vous disais à Bordeaux, si vous venez de Corrèze, c'est fini. On ne peut pas vous voir. C'est exactement pareil. Hein. C'était... Mais effectivement, les Samaritains étaient considérés comme des gens pas fréquentables, comme des étrangers. Et d'ailleurs, l'histoire, la célèbre parabole des Évangiles, le bon Samaritain, tient là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, qui c'est qui va sauver l'autre, le pauvre type dans un fossé qui a été détroussé et frappé à mort. Eh bien, c'est celui qu'on n'attendait pas. C'est pas le prêtre du temple qui passe et qui connaît toutes les paroles de la Torah, qui sont quand même d'aimer son prochain comme soi-même et d'aller secourir l'autre. Non, on lui passe pas. C'est pas le lettré qui connaît tous les textes. Il ne s'arrête pas. C'est le Samaritain. Voilà. Qui est un étranger, qui est en voyage, qui prend le temps de s'arrêter, qui amène le pauvre type à l'auberge, qui paye l'aubergiste pour qu'il s'occupe du type et qui disparaît. Donc la question de l'accueil dans ces textes, effectivement, ou du rapport à l'étranger, du rapport à l'autre, en fait, est toujours présente. Mais ce n'est pas parce que ça me fait plaisir aujourd'hui de dire ça, c'est parce que c'était une réalité de cette société-là et qu'aujourd'hui, finalement, on est toujours intéressé de voir comment ces textes-là parlent de ces réalités-là, effectivement. Et quand j'écrivais ces chroniques, comme j'étais en train de faire ce livre, donc effectivement, les choses oui.
Oui. Alors, donc, du coup, j'imagine que le travail de chroniques, donc de textes courts pour un journal, je ne sais pas si vous aviez déjà fait ça avant, c'était peut-être une nouvelle expérience. Ça vous a été proposé, vous avez accepté, c'est quelque chose que vous avez.
Ouais, non, moi, j'avais jamais fait ça et j'avais jamais eu envie de faire ça. Voilà.
D'accord. Pourquoi ?
Parce que je trouve ça. Ça me prenait du temps et que ça allait maintenant. D'accord. Puis cette idée, vous allez parler de l'actualité toutes les semaines. D'abord, je ne m'en sentais pas capable. Je peux avoir des idées comme tout un chacun ici, mais ce n'est pas forcément les plus intéressantes qui soient. Et en tout cas, bon, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui les donnerai. Mais j'ai fait ça parce que j'étais dans un moment, un peu assez proche du désespoir, on va faire ça vite. Et je n'écrivais plus. Et finalement, cette commande, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, chaque semaine, je me mettais à ma table de travail pour écrire un petit texte de 5000 signes sur un sujet. Et finalement, que ce que j'ai fait, j'ai hélas parlé de moi. C'est-à-dire, j'ai commencé. Pour moi, j'ai pris ça comme une espèce de journal, ce que je n'avais jamais fait. J'ai jamais écrit. D'ailleurs, je compte pas en faire. Mais donc, c'est devenu pour moi comme une sorte de journal, un rendez-vous toutes les semaines où j'écrivais quelque chose. Effectivement, je parlais quand même un peu de ce qui m'arrivait et de ma situation. Bon, alors j'espère que j'ai pas fait que ça, effectivement, mais je
non, justement,
c'est, non, mais c'était voilà, c'est ça qui a mis l'amorce, si vous voulez. Voilà, ça,
et puis ça retrace là, aussi là. les deux ans, entre 2018 et 2020,
à travers
les événements, il s'est passé pas mal de choses. Quand c'est l'époque de Noël, vous parlez de l'époque de Noël, quand c'est le printemps, voilà. Et moi, je trouve que dans ces textes courts, il y a quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté. Il y a des moments où vous êtes en colère. On sent la colère. Ce sont quand même des textes où il y a une tension émotionnelle. Moi, c'est comme ça que je les ressens.
Non, mais d'abord, parce qu'effectivement, je parlais de choses qui me touchaient vraiment. C'était parfois difficile, même si ça faisait du bien, justement, d'en parler. Après, il y a eu des sujets un peu, parce que j'étais un peu néophyte. Par exemple, bon, c'est assez marrant, mais c'est... Bon, un jour, j'écris une chronique sur le retour du loup, je sais pas où d'ailleurs, dans les Pyrénées. Bon, je trouve que je connais bien les Pyrénées, que je connais bien l'endroit où il y avait ces histoires de loups qui étaient bons. Puis alors, évidemment, il y a les célèbres débats avec les bergers. Donc, j'écris une chronique plutôt en faveur du retour du loup, même si je dis que je comprends très bien les problèmes que ça pose. Alors là, vous avez après, parce que ça, c'est le journal. Après, vous avez évidemment une série de gens qui vous tombent dessus, qui écrivent partout sur les réseaux sociaux, des lettres, des courriers, qui forcent les adresses, les adresses e-mail pour dire abominable type, le loup, c'est atroce, etc. Et donc, tout d'un coup, j'ai été pris dans des débats comme ça. Il y a eu celui-là, il y a eu sur les migrants, j'ai eu aussi beaucoup. J'ai eu plein de... Et donc, finalement, c'était assez intéressant parce que moi, je trouve que... Et ça rejoint un peu les évangiles. Je trouve que rien ne peut se faire sans la discussion. Et ce que j'ai toujours essayé de dire ça, voilà, dans les chroniques, c'est-à-dire, ben, très bien, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, peut-être que je dis des bêtises, peut-être que je ne suis pas... Mais en tout cas, discutons. Parce que la discussion, c'est le lieu même d'une démocratie possible. Et en tout cas, c'est le lieu même... d'une façon de vivre ensemble, cette expression que j'aime pas trop, mais bon, il peut pas y avoir de vivre ensemble s'il n'y a pas en permanence une discussion, si on ne reconnaît pas que finalement ce n'est pas nous qui détenons la vérité dans son ensemble, mais que le fait de pouvoir vivre ensemble implique le fait de pas être d'accord, et que ce fait de pas être d'accord, et ça résonne aujourd'hui de façon très forte quand même, et qu'on doit accepter de pas être d'accord ensemble et de vivre quand même ensemble. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un tout petit peu difficile.
Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Boyer.
Ben merci.
Merci aussi à vous. Bonne fin de soirée.